Europe 1. 15h, 16h sur Europe 1.
Il est difficile de savoir ce qu'on est.
À cette hauteur, il est trop seul pour pouvoir se confier.
Historiquement vôtre.
The successor to the kings and queens of history.
Tu me fends le cœur, hein?
Oh, allons, César.
À César, tu me fends le cœur.
Oh, voilà dans le mystère percé. C'est d'amour qu'il s'agit.
Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue comme chaque jour à 15h. Et pendant une heure, je vous invite à découvrir sur Europe 1 la véritable histoire d'un personnage, homme ou femme, qui a marqué l'histoire, qui l'a changé aussi parfois en passant sous les radars. Des personnages, mais aussi des lieux où l'histoire s'est jouée et des événements marquants que j'ai choisi de vous raconter. Cet après-midi, oui, on va voyager en Europe, comme l'a fait tout au long de sa trop courte vie un génie. Je vous raconte celui qui a quitté Salzbourg et a ébahi les cours de Paris à Munich en jouant de sa musique. Ou la véritable histoire de Mozart, le compositeur voyageur. Pourquoi Mozart est-il parti en tournée à l'âge de 6 ans? Combien de temps a-t-il passé à se produire dans les principales villes d'Europe occidentale? Comment voyageait-on au XVIIIe siècle? Pour répondre à ces questions et bien d'autres encore, j'ai le plaisir d'accueillir un journaliste, une voix surtout que les auditeurs d'Europe 1 connaissent bien et un musicien aussi, qui raconte les voyages de Mozart dans son dernier livre. Bonjour Thierry Geffretin. Et bienvenue chez vous.
Merci Stéphane Bern, bonjour.
Mozart, originaire de Salzbourg en Autriche, est mort à l'âge de 36 ans. Durant toute cette courte vie, combien de temps a-t-il passé à sillonner les routes européennes et à se produire à l'étranger?
Alors si on considère qu'il commence à voyager à 6 ans, qu'il est mort à presque 36 ans, donc ça fait 30 ans, le tiers. Voilà, il a voyagé 10 ans, ce qui fait le tiers de sa vie, on peut le dire.
C'est fou. Vous publiez Mozart en tournée aux éditions Éric Bonnier. On va continuer à en parler ensemble, Thierry Geffretin, juste après mon récit.
Europe 1,
15h, 16h, historiquement vôtre.
Le récit, Stéphane Bern.
Nous sommes au début de l'été 1778 à Paris et le jeune Wolfgang Amadeus Mozart, 22 ans, ne va pas très fort. Et on le comprend. Sans place rémunératrice pour diriger un orchestre ou servir quelconque prince par ses brillantes compositions, il passe beaucoup de temps à frapper à des portes restant souvent closes et à donner des leçons de piano à quelques demoiselles de bonne famille qui prennent trop souvent l'habitude de partir pour leur demeure de campagne en le laissant sans le sou, obligé de réclamer son dû à des domestiques. On a bien donné en ville l'une de ses symphonies, il a bien trouvé des libraires pour éditer des sonates, mais pas beaucoup plus. Alors, pas étonnant qu'il soit parfois sujet à quelques accès de mélancolie, comme il le dit pudiquement. D'autant qu'au mois de juin, sa mère est tombée malade. Les saignées n'y changent rien et Mozart est alors obligé de courir la ville pour faire venir la seule chose que sa mère demande, un médecin allemand. Allemand. Oui, car si Wolfgang et sa mère sont alors dans la capitale française, Madame Mozart ne veut plus de ces Français qui prescrivent du vin pour réchauffer son corps alors qu'elle n'aspire qu'à se rafraîchir pour cesser au moins un temps de souffrir des fièvres. Vin, eau, lavement, saignée ou infusion de rhubarbe, tout cela est de toute façon vain car la pauvre femme agonise. C'est donc loin de sa maison et loin de son pays que Anna Maria Mozart décède le soir du 3 juillet dans un immeuble de la rue du Gros Chenet. Le lendemain, dans le petit cimetière Saint-Joseph, il n'y a que Wolfgang et un ami pour assister aux funérailles. Mozart veut préserver son père et sa sœur restés à la maison à Salzbourg, dans ce qui est l'actuelle Autriche. Il n'annonce pas tout de suite le décès dans ses lettres et préfère évoquer une maladie allant de mal en pis, afin que sa famille se prépare au drame. Cette douleur est encore plus difficile à vivre, loin des yeux et du cœur de ce qu'on aime. Et si Mozart est arrivé à Paris il y a 4 mois avec l'intention d'y rester et même d'y trouver la gloire, il part à la fin de l'été pour regagner Salzbourg, ville que pourtant il déteste. Il a déjà parcouru l'Europe, de l'Allemagne à l'Angleterre, de l'Italie à la France, mais le destin semble vouloir le contraindre à toujours rentrer dans la ville qu'il a vue naître, car que ce soit pour se produire en concert, s'inspirer et surtout, plus prosaïquement, pour chercher du travail, Wolfgang Amadeus Mozart a passé une bonne partie de sa courte vie à sans cesse quitter Salzbourg pour voyager. Et cela, comme vous allez le voir, a commencé très tôt. Oui, celui qui est venu au monde sous le nom de Johannes Chrysostomus Wolfgang Gottlieb Mozart n'a que 6 ans quand il se lance dans son premier voyage. Nous sommes le 18 septembre 1762 devant leur maison à Salzbourg. Toute la famille s'installe dans la voiture de louage tirée par 4 chevaux. Il y a sa sœur, Maria Anna, surnommée Nannerl, de 5 ans son aînée, sa mère Anna Maria et son père Léopold, qui a obtenu un congé de sa charge de maître de concert auprès du prince archevêque de la ville. Direction Vienne, à environ 300 km de là. Ce qui n'est pas une sinécure dans de lourds carrosses aux suspensions douteuses, sur des routes pas toujours commodes. Le but de ce voyage est simple, jouer de la musique. Un langage que Wolfgang, qui ne sait même pas encore écrire, maîtrise à la perfection, tout comme sa grande sœur. Léopold Mozart, lui-même fin musicien, s'est en effet très tôt rendu compte des incroyables capacités de ses enfants. C'est en écoutant Nannerl jouer que Wolfgang, à 3 ans à peine, s'est de lui-même hissé vers les touches du clavecin. L'agencement harmonieux des sons paraît presque inné pour cet enfant dont les seules limites résident, pour l'instant, en la capacité d'écartement de ses petits doigts. Il joue tout aussi brillamment du violon, a déjà composé quelques menuets et peut reproduire un morceau après une seule écoute. En somme, c'est un génie. Léopold considère qu'il s'agit d'un miracle divin et que sa tâche est de le faire savoir au monde. Les premiers concerts auprès de la bonne société salzbourgeoise furent encourageants. Autant donc continuer à présenter ses enfants à ceux qui sauront les apprécier et offriront en échange quelques émoluments, forcément. Vienne, en tant que capitale musicale du vaste monde germanique, est évidemment le premier but à atteindre. Après quelques étapes et une partie du trajet en coche d'eau sur le Danube, c'est chose faite, en octobre 1762. Quelques représentations ravissent des personnages importants et la famille est vite invitée au château de Schönbrunn pour se produire devant l'archiduchesse d'Autriche et impératrice du Saint-Empire, Marie-Thérèse. On met le petit Mozart à l'épreuve. Il joue à 2 mains ou à 1 seul doigt, puis sous un tissu qui lui masque le clavier. À chaque fois, c'est une réussite. On se pâme devant les tris de Wolfgang ou les doubles croches de Nannerl et l'on rit avec bienveillance du garçonnet qui, après ses tours de force musicaux, vient batifoler dans les jupons de l'impératrice. C'est un succès et tous les présents rétribuent comme il se doit le père de famille. Cela n'empêche pas Wolfgang d'attraper la scarlatine, mais la famille rentre à Salzbourg les poches pleines avec l'assurance que ses enfants talentueux sont un don du ciel. Et Léopold Mozart voit beaucoup plus large. Le séjour à Vienne a notamment permis de rencontrer l'ambassadeur de France. Impressionné comme tout le monde, il a invité les Mozart à Paris. La famille se lance donc en juillet 1763. La France, c'est loin. Il y aura des étapes sur le trajet, beaucoup, beaucoup. On commence par Munich, Augsbourg, puis Mannheim, Francfort et Cologne, avant de passer vers les Pays-Bas autrichiens, à Liège, Louvain et Bruxelles. À chaque halte, Nannerl, 12 ans, et Wolfgang, 7 ans, rehaussés sur un coussin, ébahissent les grandes ce monde et le petit Mozart ne peut s'empêcher de tâter partout les orgues des églises. Léopold, leur père, prend lui le soin d'obtenir des lettres de recommandation afin de préparer l'accueil dans les prochaines villes. Et ça fonctionne. En novembre 1763, les Mozart sont à Paris, logés au 2e étage du bel hôtel de Beauvais, chez l'ambassadeur de Bavière, qui fait monter dans leurs appartements le clavecin de la maîtresse de maison. Léopold se fait apprécier de certains nobles, tels que le baron Grimm, diplomate et homme de lettres, qui a introduit la famille à Versailles. Wolfgang joue de l'orgue dans la chapelle royale et papote au dîner avec la reine Marie Leszczynska, qui a le bon goût de parler allemand. Ils repartent avec des cadeaux, un peu d'argent et une solide réputation de prodige dont les gazettes se font vite l'écho. Et en bon courtisan, Léopold Mozart a pris soin de dédicacer 2 petites sonates de son fils à Madame Victoire, la fille de Louis XV. Il faut savoir flatter les égaux autant que les oreilles. Puis les Mozart traversent la Manche. Comme les autres, le roi Georges se ravit des virtuosités mozartiennes. À Londres, la famille rencontre Johann Christian Bach, alors plus célèbre que feu son père Jean-Sébastien. Il est maître de musique de la reine Charlotte et donne, par son style sentimental, un nouvel élan aux sonates pour clavier ou symphonies pour orchestre. Il échange beaucoup avec le petit Mozart. Ils jouent l'un à la suite de l'autre ou ensemble, ils tentent des harmonies. C'est certainement sous son influence que Wolfgang compose d'ailleurs à Londres sa première symphonie. Ces voyages ne servent pas uniquement à se montrer, mais aussi à s'imprégner et s'éduquer au contact des musiciens du temps, ou en assistant à moult représentations comme les opéras de Handel, récemment décédé, qu'on donne encore à Londres. Les castrats et sopranos y rivalisent d'agilité dans des airs ébouriffants. Pas étonnant que Mozart, véritable éponge, compose alors un air pour ténor, qui malgré une orchestration moins étoffée, n'a rien à envier aux grands airs italiens, dont il reprend la langue ainsi que le veut l'usage pour l'opéra. Le séjour à Londres est fécond et long, mais le grand voyage est loin d'être terminé. En mai 1764, Léopold Mozart, toujours soucieux du ratio entre les dépenses engagées et les revenus espérés, affirme dans une lettre qu'il est hors de question d'aller vers la Hollande, où la vie est selon lui trop chère et les gens trop grossiers. Pourtant, un an plus tard, la famille est à Gand, puis à Anvers, La Haye et Amsterdam, grands centres d'édition où ils font publier des sonates pour clavecin et violon et des variations pour clavier de Wolfgang. Léopold, qui pensait un temps en finir avec cette considérable tournée, s'est toujours profité de son entre-gens pour charmer partout la noblesse et se faire recommander à de nouveaux personnages importants. À peine arrivé dans une nouvelle ville, le père de Wolfgang fait aussi paraître des annonces dans les gazettes locales afin que tout le monde soit au courant de la présence du petit prodige. Aux quelques concerts publics contraignants à organiser, il préfère les salons des hôtels particuliers, qu'il quitte parfois avec un peu d'argent, mais plus souvent avec des cadeaux. Tissus précieux, montres et objets variés, les Mozart reçoivent de quoi agrandir leur collection de tabatières, même si Léopold préférerait des liquidités. Mais la famille Mozart dépend du bon vouloir des puissants. À Bruxelles, Léopold partage, toujours dans une lettre, son impatience face au prince Charles-Alexandre de Lorraine, qui lui a pourtant promis qu'il entendrait bientôt les enfants. « J'ai vraiment l'impression que cela ne donnera rien, écrit-il, car monsieur le prince ne fait que chasser, baffrer et boire comme un trou, et finalement se rend compte qu'il n'a pas un sou. Il est aisé de deviner qu'entre-temps, je vais avoir une bonne addition à payer à l'hôtel. » Les musiciens ne sont jamais que des valets, à la merci de ceux qu'ils servent et distraient. La famille peut passer des heures des palais à la paille des auberges où les cochons s'invitent au souper. Finalement, après un second passage à Paris, puis à travers la Suisse, la tournée s'achève. Elle a duré 3 ans. Wolfgang a désormais 10 ans et une solide réputation. Il a fait énormément de progrès et a déjà composé une 30aine de symphonies, sonates ou airs variés. Bien loin des menuets ou des brèves pièces pour piano, il est passé à l'orchestration et aux développements harmoniques bien plus amples, à tel point que d'aucuns pensent que ses pièces sont de la main du père plutôt que du fils. Et Wolfgang continue de jouer et compose jusqu'à obtenir en 1769, à seulement 13 ans, le poste de Concertmeister, premier violon de l'orchestre de Salzbourg. Une situation confortable, mais qui ne lui suffit pas, car il y a chez lui un goût de l'ailleurs, autant pour le plaisir du voyage et la découverte de nouvelles émotions musicales que pour son avenir. Alors, en décembre 1769, Wolfgang prend la route vers l'Italie avec son père seulement. Sa sœur Nanna, désormais adulte, demeure une très bonne musicienne, mais ne peut plus se présenter comme prodige. Surtout, Léopold mise tout sur son fils et veut parfaire son éducation au contact des foyers intellectuels et musicaux italiens, afin de trouver ensuite une bonne place auprès de quelconque cour d'Europe. À Rovereto, à Vérone, Mozart donne des concerts qui remportent un petit succès. Il arrive à Milan en plein carnaval, se réjouit de ne croiser dans la rue que des gens masqués, d'enchaîner des opéras, bals et concerts dans la noblesse. Il rencontre le comte Firmian, grand protecteur des arts, et se fait passer commande d'un opéra pour l'année suivante. En attendant, Mozart, père et fils, continuent de parcourir la péninsule et partout de la musique. Dans les théâtres, dans les églises de Rome ou de Naples, Wolfgang s'imprègne de la pétulance italienne, tout comme il commence à signer ses lettres à Amadeo, aimé de Dieu, traduction italienne de son deuxième prénom, Gottlieb, et dont la version latine, Amadeus, ne sera largement répandue qu'après sa mort. Dans les échanges avec sa bien-aimée sœur, Wolfgang partage des airs de son invention. L'Italie nourrit son bouillonnement créatif. Revenu à Milan, dans une lettre à sa mère, Wolfgang affirme « Je ne puis en écrire long, car les doigts me font très mal à force d'écrire des récitatifs. » Les récitatifs, ce sont dans les opéras ces passages à l'accompagnement orchestral discret, où le chant se rapproche de la diction parlée pour faire avancer clairement l'histoire, alors que dans les arias, les chanteurs s'époumonnent en mélodies virtuoses qui expriment le sentiment. Car Mozart, après avoir livré son premier quatuor et composé de nombreux airs isolés, achève son premier drama per musica, comme on dit à l'époque, un grand opéra sérieux en trois actes, à la forme bien codifiée, inspirée de l'Antiquité. C'est Mithridate, Re di Ponto, présenté à Milan le 26 décembre 1770. C'est un succès. On lui en commande un autre pour l'année 1772. Mozart ne pense qu'à la musique. Il étudie la composition auprès du grand maître Giovanni Battista Martini à Bologne, parfait son italien, et est même promu chevalier de l'éperon d'or par le pape. Mais avec en tout trois voyages entre 1769 et 1773, même s'il connaît le succès à Milan et obtient la reconnaissance des milieux musicaux, aucun poste stable ne s'offre à lui. Il revient donc à Salzbourg auprès du nouveau prince archevêque, le comte de Colloredo, qui le confirme à son poste de concertmeister. Premier violon, ça n'est déjà pas si mal. Mais tout ne va pas bien se passer et Mozart encore va partir, ou plutôt, il va repartir. En 1777, Mozart a 21 ans. Il est toujours dans sa ville natale où il s'ennuie sur fond de relations tendues avec son employeur. Cela ne l'empêche pas de composer beaucoup même, notamment des quatuors, des symphonies ou des concertos pour clavier, qui prennent une nouvelle ampleur et subliment les possibilités expressives du pianoforte, ancêtre de nos pianos modernes. Or, limité par son prince aux airs tronc convenus et aux compositions religieuses, Mozart verrait bien sa puissance créatrice s'exprimer ailleurs que dans cette Salzbourg étriquée. Il décide alors de démissionner. Le comte de Colloredo préfère dire qu'il le renvoie. La rupture est, quoi qu'il en soit, consommée. Dans un monde où les musiciens ne vivent qu'en étant au service d'un puissant, Mozart part chercher du travail ailleurs. Le père reste à Salzbourg pour assurer sa mission de Kapellmeister, c'est donc la mère qui joue les chaperones. Direction Mannheim pour la mère et son fils, à l'époque cette brillante cité des bords du Rhin, au sud-ouest de l'Allemagne, abrite ce que beaucoup considèrent comme le meilleur orchestre d'Europe, sous la protection du prince palatin Karl Theodor. Mozart rencontre l'intendant de la musique et annonce « Je suis déjà venu ici il y a 15 ans, mais maintenant j'ai grandi, il en est de même de ma musique. » Sûr de son talent, il compte obtenir un poste de compositeur et écrire des opéras, la forme la plus prestigieuse et la plus rémunératrice. Mais Karl Theodor tarde à lui accorder quoi que ce soit de sérieux et de stable. Wolfgang enchaîne donc les concerts chez quelques nobles du coin et reçoit à chaque fois de beaux cadeaux, en attendant une place pérenne. Finalement, le prince lui signifie qu'il n'y en a pas pour lui. Mozart va devoir partir encore C'est l'hiver et ses nouveaux amis musiciens le convainquent de ne pas se lancer dans un voyage en cette saison, d'autant qu'il a une autre bonne raison de rester puisqu'il est éperdument amoureux de la jeune cantatrice Aloysia Weber, pour qui il écrit d'ailleurs l'air « Non sodan de Vienne » pendant que Madame Mozart, mère, s'ennuie ferme et ne sait plus quoi tricoter pour s'occuper. D'amour, apparemment son retour, et de froid sous la neige, Mozart patiente donc jusqu'à la belle saison, donne des leçons et prend du bon temps avec ses amis musiciens. Bientôt, il pourra se rendre dans ce qu'il ne doute pas être le lieu de son succès à venir, Paris. Le seul endroit où l'on peut gagner de l'argent et se faire honneur, dit-il à son père. Pour se mettre dans le bain, il compose même un air au goût français, et en français dans le texte, qu'une chanteuse de passage l'aide à écrire, puisqu'il ne maîtrise pas assez bien la langue de Molière. Il y est question d'oiseaux qui partent ailleurs chercher la saison des fleurs, un peu comme lui. Toujours accompagné de sa mère et après 9 jours d'un interminable voyage, c'est par une morne après-midi de mars 1778 qu'il pose pour la 3e fois de sa vie les pieds à Paris. Son compatriote, Christoph Willibald Gluck, a bien réussi à y faire son trou et développer un nouveau style d'opéra avec succès. Alors, pourquoi pas lui ? Comme à chaque fois, il faut tenter de plaire aux nobles des salons et à ceux qui font la pluie et le beau temps sur le monde musical, tel Joseph Legros qui dirige l'ensemble nommé le Concert Spirituel, une véritable institution. Tout se présente bien, les deux hommes se plaisent et Mozart se fait commander une symphonie. Une fois la partition livrée, le concert se fait attendre et le compositeur enrage de voir que Legros fait traîner les choses. C'est finalement pour la fête Dieu, en mai 1778, que celle que l'on nomme aujourd'hui Symphonie parisienne rencontre son petit succès. Après les bravos, Mozart s'en va manger une glace sous les galeries du Palais Royal, puis rentre chez lui, ravi. Dans la lettre à son père, qu'il tient constamment au courant de ses aventures, il précise, bien qu'il est rentré très tôt, comme pour mieux assurer qu'il n'a pas été traîné avec des dames des dites galeries du Palais Royal, dont la réputation de volupté et de vénalité est connue jusqu'à Salzbourg. Mozart vante sa vie de gentil célibataire et couvre de respect ce père si loin mais si présent, et dont peut-être il veut aussi s'émanciper. Il n'est pas là pour batifoler, mais pour travailler et surtout réussir. En attendant, il donne des leçons aux dames de bonne famille, fait éditer des sonates, des quatuors pour flûte, pour harpe aussi, mais toujours pas de commande d'opéra. On lui propose bien de prendre l'orgue de Versailles 6 mois par an, mais qu'irait-il faire loin de la capitale et de ses concerts ? C'est non. Sur toutes ces déceptions, le décès de sa mère est une épreuve de plus, comme je vous le racontais au début de mon récit. Ainsi qu'il l'écrit à son père, les perspectives se révèlent petites et douteuses. Clairement, Paris n'est pas le bon écrin pour son talent. Le baron Grimm, protecteur des premiers voyages de l'enfant Mozart, le trouve peu efficace pour charmer d'éventuels employeurs. Son père le prie de rentrer à Salzbourg, où le prince archevêque accepte de lui redonner la place de Concertmeister. Wolfgang finit par accepter son sort. Le baron Grimm, comme pour le presser de partir, paye lui-même le siège de retour dans une diligence. Et après un passage par Munich, pour revoir son amour Aloysia, qui ne partage toujours pas ses sentiments, c'est donc à Salzbourg encore et toujours qu'il est obligé de revenir et dont il va, évidemment, repartir. En 1781, Mozart est toujours au service du prince archevêque de Salzbourg, avec qui les relations sont plus qu'exécrables. Lors d'un séjour à Vienne, la situation s'envenime. Mozart ne supporte plus d'être moins bien traité qu'un laquais. Et à force de complaintes insolentes, il est définitivement congédié. Ce qu'il souhaitait ardemment, évidemment. Mozart est enfin libre, indépendant et reste donc pour s'installer. Il fait bien car c'est ici que sa carrière et son génie vont exploser. Il obtient rapidement l'admiration de l'empereur Joseph II, qui se régale des joutes de virtuosité organisées en son palais et commande un grand opéra en allemand, dit « Entführung aus dem Serail », l'enlèvement au sérail. Il n'y a plus de récitatif à l'italienne, mais des passages réellement parlés entre des arias virtuoses, et c'est un succès en 1782 qui ouvre des années fastes. La situation financière de Mozart et de celle qui est désormais son épouse, Constance, la sœur de son ancien amour Aloysia, est au beau fixe. Les commandes et les succès s'enchaînent, mais en 1786, un nouvel opéra basé sur l'histoire des noces de Figaro de la pièce du français Beaumarchais plaît moins. Qu'à cela ne tienne, c'est ailleurs, comme il l'a souvent fait, qu'il va chercher le succès, en l'occurrence à Prague, peut-être la ville où Mozart a toujours reçu un accueil à la hauteur de son génie. À Vienne, les années fastes passent. L'opéra Don Giovanni, qui fut un triomphe lors de sa création à Prague en 1787, est un semi-échec dans la capitale autrichienne. Les goûts changent et les Mozart déménagent au rythme de leurs revenus en baisse. Il y a encore des voyages à Dresde, à Leipzig, la ville de Jean-Sébastien Bach, dont Mozart a découvert l'incroyable talent de composition polyphonique, et jusqu'à Berlin, où il part avec un ami franc-maçon comme lui, auquel il va aussi emprunter de l'argent, manifestement un peu trop longtemps, puisqu'en 1791, un tribunal le condamne à rembourser prestement les 1435 florins. Peut-être le succès dans un petit théâtre des faubourgs de Vienne de son opéra Die Zauberflöte, la flûte enchantée, aurait-il pu l'aider à payer ses créances, mais il n'en aura pas le temps. Mozart meurt le 5 décembre 1791, à seulement 35 ans, sans que l'on sache bien de quoi. Son dernier voyage se fait sans musique et sans trop de cérémonie. Son épouse n'a pas les moyens de funérailles de première classe. Fauché par la mort, il laisse son célèbre requiem inachevé, signe que s'il y a bien une chose que Mozart n'a jamais cessé de faire, en plus de voyager, c'est bien de composer.
Europe 1, historiquement vôtre.
Thierry Geffrotin, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Mozart a passé sa vie à composer et à voyager. Dans quelle mesure l'expérience du voyage a-t-elle contribué à décupler son génie artistique ?
Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de Mozart sans voyage. Parce que quand il est petit, il voyage pour se former, comme vous l'avez si bien raconté dans le récit. Il est au contact de compositeurs très importants, Jean-Christian Bach en Angleterre. Il découvre l'opéra italien en Angleterre aussi. L'Europe, c'est un terrain de jeu pour lui, pour apprendre son métier, tout simplement. Et quand il est adulte, le voyage, c'est l'occasion pour lui de composer, en dehors de Vienne où il habite, par exemple la symphonie parisienne, fameuse symphonie, c'est à Paris qu'il la crée. Mithridate à 14 ans, c'est à Milan que cet opéra Seria est créé. Et Don Giovanni, l'opéra des opéras, comme disait Wagner, c'est à Prague. Donc le voyage, toute sa vie, a été très important. Et je redis cette formule, ce n'est qu'une formule, mais pour moi, il n'y a pas de Mozart sans voyage.
Thierry Geffrotin, vous êtes l'auteur du livre « Mozart en tournée » paru aux éditions Éric Bonnier, dans lequel vous racontez Mozart à travers ses nombreux voyages en Europe. Et ce qui vous a permis de reconstituer ce parcours, c'est la correspondance très riche entre Mozart et son père. Que nous racontent ces lettres ?
Tout, absolument tout, c'est-à-dire évidemment la musique, parce que le père qui écrit beaucoup lorsque toute la famille voyage, nous raconte les compositeurs qu'ils sont amenés à rencontrer, les artistes, les concerts auxquels ils assistent, notamment dans le voyage en Italie, les trois voyages en Italie que le père et le fils vont faire tous les deux. Sans maman et sans la sœur. Donc voilà, on a déjà un corpus, comme on dit, musical extrêmement riche. Et puis, il y a les à côté qui rendent Mozart si humain, c'est-à-dire où il loge, quand il est malade. Le père parle beaucoup de maladies et d'argent. C'est sa grande obsession, l'argent et aussi la santé. Les lieux où on est accueilli. Lorsqu'il est en Italie, on a l'impression d'être en 2024. C'est-à-dire que c'est Venise tel qu'un touriste le visiterait ou le visitera aujourd'hui. Naples, c'est la même chose. Il va voir le Vésuve, on va à Pompéi, enfin, c'est très étonnant et en même temps c'est Mozart tel qu'on souhaite le connaître, c'est-à-dire au-delà de ce génie musical, c'est un homme de chair et de sang, et grâce à cette fabuleuse correspondance, on a plusieurs centaines de lettres du père et du fils de Wolfgang et de Léopold. Il y a aussi d'autres interlocuteurs par ces lettres, mais c'est surtout le père et le fils qui nous donnent tellement à apprendre sur cette vie incroyable.
Au début des années 1760, conscient du génie de ses enfants, Léopold Mozart considère qu'il est donc de son devoir de le dévoiler aux yeux du monde. C'est ainsi que toute la famille Mozart se lance en 1763 dans une tournée européenne qui durera 3 ans. Mais quel bilan artistique peut-on faire de ces 3 années de promenade, j'allais dire, d'exposition du petit Mozart?
Ben, je pense que lorsque le petit Wolfgang quitte Salzbourg en 1766, il a un haut potentiel musical, voilà, il a sous les doigts, il sait déjà beaucoup de choses, il est déjà un petit virtuose, il commence à composer, et 3 ans après, quand il rentre, c'est un grand compositeur, puisqu'il aura déjà composé une première symphonie à l'âge de 8 ans à Londres. Ce voyage est très formateur et révèle vraiment plus que le potentiel. Il part, c'est un petit garçon, il rentre, c'est déjà un grand compositeur. Et il a 10 ans.
Et le bilan financier de tout ça, parce que je raconte en permanence dans mon récit qu'il touche beaucoup de cadeaux, mais en numéraire.
Alors, il y a beaucoup de tabatières, en effet. Ça, je crois qu'ils sont très riches de tabatières. Alors,
les vendent pour vivre?
Non, je pense qu'il les gardait, les tabatières. Mmh. Mais en effet, le père fait des comptes très précis sur combien ça lui coûte, combien ça lui rapporte. Alors, le père, je pense, il nous dit pas tout. Je pense que la première grande tournée, il y a eu beaucoup d'argent de gagner. Mais comme il veut voyager avec toute la famille, tous les Mozart voyagent, et notamment avec un domestique, ils sont 5, et qu'il veut voyager dans de bonnes conditions, je pense que ça coûte très cher. Donc, le bilan financier, on va dire, il s'équilibre. Voilà, on va le dire comme ça.
Thierry Geoffretin, je le disais, Léopold Mozart se sentait investi du devoir de dévoiler le génie de ses enfants. Mais si Wolfgang est entré dans l'histoire, sa sœur Mariana, Nanan, a été presque complètement oublié.
Ah oui, je pense que c'est un drame pour elle. C'est un drame parce que quand elle est toute petite, elle a 5 ans de plus que Wolfgang. Elle est très douée, elle aussi, grande interprète, virtuose. Et donc elle a connu, en effet, ces voyages magnifiques de son enfance. Et quand elle est en âge, elle-même, de donner des cours, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent, quand papa et le fiston sont en Italie, il faut donner des cours pour gagner de l'argent. Et puis l'époque fait qu'on sacrifie toujours une sœur au profit du frère. La question ne se pose pas, et ça continuera. Fanny Mendelssohn, la sœur de Félix Mendelssohn, est finalement moins connue, elle aussi, ou Clara Schumann. On en parle beaucoup de Clara Schumann, mais pendant longtemps, on parlait de Robert Schumann. Et je pense que malheureusement, c'était dans l'ordre des choses à l'époque. C'était une grande virtuose, Maria Anna, sans doute pas une grande compositrice, mais grande virtuose, comme son frère. On disait derrière, il y a juste Wolfgang devant sa sœur. Voilà, c'était d'immenses virtuoses tous les deux.
Un mot sur les voyages quand même, les périples effectués sur les routes européennes. À l'époque, il faut le rappeler, mais c'était une évidence, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de TGV. Dans quelles conditions les Mozart voyagent-ils?
Alors ça mériterait un livre, parce que c'est assez incroyable de voir comment en 1780, entre 1760 et 1780, comment on voyage dans toute l'Europe, parce qu'ils ont voyagé dans toute l'Europe. Alors on peut prendre des postes ordinaires ou des postes extraordinaires, on comprend bien que l'ordinaire, ça va pas vite et c'est pas confortable. Extraordinaire, c'est beaucoup plus cher et ça avance plus vite. Ils voyagent en voiture privée, souvent Léopold, qui a le sens, lui, il est très proche de la noblesse, il arrive à se faire accepter. On voyage avec l'aristocratie, ça évite des frais, et on voyage de manière confortable.
Donc on utilise leur carrosse, c'est ça ?
On utilise leur carrosse. Alors, on s'arrête, il y a des haltes, on change d'équipage, on change de chevaux, on change de matériel. Au cœur de la nuit, on se lève. On n'imagine pas
ce qu'on loge chez l'habitant ou on loge dans les auberges ? Parce que les nobles pouvaient.
Oui,
on peut faire la tournée des châteaux aussi.
Alors, c'est ce que souhaitait Léopold. Dans la plupart du temps, il essaie de se rapprocher des représentants de l'aristocratie pour se faire héberger avec son fils, notamment en Italie. Et autrement, quand il séjourne longuement, eh bien, il loue comme on ferait un Airbnb aujourd'hui. C'est-à-dire, plutôt que d'aller dans des auberges qui coûtent trop cher pour ce que c'est, qui sont sales et mal fréquentées, le père loue des appartements, mais ça coûte toujours des sous. Ça, le père est obsédé par l'argent.
Oui. Il fait l'équilibre entre ce que ça rapporte et ce que
toujours,
ça coûte.
Toujours, toujours.
Thierry Geoffretin, on va continuer à explorer l'Europe du XVIIIe siècle avec Mozart. De son temps, c'est Vienne qui était la grande capitale de la musique. Si j'osais, je dirais que c'est toujours le cas, mais enfin bon. Vous écrivez que pour les Viennois, la musique était plus qu'un divertissement. Que représentait-elle?
Alors, je vais reprendre une expression employée par un académicien de l'Académie française qui est décédé, hein, Marcel Brion. Il a écrit un très beau livre sur la vie quotidienne à Vienne, à l'époque de Mozart et de Schubert. Et il dit que la musique, les arts en général, sont une nécessité vitale pour les Viennois. Les Viennois adorent le spectacle, la représentation. Ils aiment les montreurs d'ours, les magiciens, les cirques, les feux d'artifice, l'opéra, la flûte enchantée. C'est un public populaire qui va assister à la flûte enchantée. Donc c'est vraiment, pour reprendre ce mot, cette expression de Marcel Brion, c'est une nécessité vitale.
Mozart a passé près d'un tiers de sa vie en voyage, c'est ce que vous nous disiez en début d'émission. Sait-on quelle a été son étape favorite, la ville qu'il a le plus aimée ou celle qui l'a le plus inspiré?
Oui, ça on le sait parce qu'il l'écrit, c'est Prague, mes chers Pragois. Parce que la ville...
C'est là qu'il était le mieux accueilli peut-être.
Le mieux accueilli. Il est invité pour assister à une représentation des noces de Figaro. Finalement, il dirigera ces noces. Et quand il arrive à Prague, il se rend compte qu'il est une star. À l'époque, le compositeur n'est pas une star. Ce sont les interprètes qui sont des stars, surtout les castrats. Les rockstars, ce sont les castrats. Là, il est accueilli comme une rockstar. Il est réinvité puisqu'il créera Don Giovanni. Et c'est vraiment la ville où il se sent aimé. Mais il ne voulait pas s'y installer parce qu'il considérait que la ville était trop petite. Ville de province, la capitale, c'est Vienne.
Enfant, Mozart passe 5 mois à Paris dans le cadre de la tournée européenne effectuée avec sa famille. Puis il y revient à l'âge de 22 ans et il compose la symphonie pour les Parisiens. Quel regard porte-t-il sur la capitale française? Quelle place ce second séjour parisien a-t-il dans son parcours?
Alors, je pense que c'est un semi-échec, pour pas dire un échec, dans la mesure, en effet, il ne pourra pas écrire d'opéra, puisque son idée, sa grande idée en venant à Paris, c'était d'écrire un opéra. Alors, il y a bien un projet d'un livret qui s'appelait Alexandre et Roxane, mais qui n'a jamais vu le jour finalement. Il compose cette grande symphonie, la symphonie 31, qui s'appelle la symphonie parisienne, qui est un beau succès, qui lui vaut d'aller manger une glace après au Palais Royal pour fêter ça, en quelque sorte. Mais le séjour à Paris est compliqué. Je pense que Mozart est quelqu'un d'un peu gauche, timide, un peu hautain aussi. Il est conscient de ce qu'il est. Et le baron Grimm a dit de lui: je lui aurais voulu moitié moins de talent, deux fois plus d'entre-gens. Il ne savait pas y faire. Il manquait un peu de... Il ne savait pas courber les chines quand il le fallait. En plus, il a perdu sa maman. Donc je pense que le séjour à Paris est dramatique humainement, artistiquement. Je pense que c'est un tournant. C'est-à-dire, il part et le nouveau Mozart est arrivé. Le Mozart que... Voilà, le grand Mozart, la bascule se fait à Paris parce que il se passe des choses en lui, liées d'ailleurs sans doute à la perte de sa maman, hein, qui font que quand il rentre à Salzbourg d'abord et à Vienne ensuite, c'est un autre Mozart.
Est-ce qu'à Paris, il retrouvera, enfin plutôt à Versailles, Marie-Antoinette qu'il avait connue enfant à Schönbrunn?
Non, pas à ma connaissance, non. En effet, mais il ira à Saint-Germain-en-Laye, où il sera fort bien accueilli, où il retrouvera Johann Christian Bach, Jean-Christian Bach, qu'il avait donc connu tout petit, à Londres. Non, le séjour, il n'a pas réussi à pénétrer dans l'antichambre
de la cour.
Le baron Grimm n'a pas fait beaucoup d'efforts pour l'aider, parce qu'il a senti que le petit garçon était devenu un adulte un peu ingérable.
Thierry Geoffretin, adulte, alors que Mozart parcourt à nouveau l'Europe, son père n'est plus à ses côtés. Vous écrivez que le génie de la musique n'a pas le sens du contact de son aîné. C'est ça, en fait, il manque d'entre-gens, il n'est pas assez diplomate, il n'est pas assez mondain, j'allais dire.
Voilà, presque. Il n'est pas assez mondain, là où son père est très mondain. Le père sait y faire, il a toujours des lettres de recommandation qu'il sait utiliser, alors que Mozart, en arrivant à 22 ans à Paris, a des lettres de recommandation qu'il ne va pas utiliser. Le père, lui, sait y faire. Et d'ailleurs, il y a un réseau du père. Le père était né à Augsbourg, il y a un réseau bavarois. Quand on suit le père et le fils en Italie, souvent, le père réussit à se faire héberger par ce réseau. Et en effet, Mozart n'a pas cette qualité du père. Il a d'autres qualités, évidemment.
Peut-être, est-ce que vous pensez qu'il manquait peut-être de simplicité? C'est-à-dire qu'il se pensait au-dessus de ça?
Je pense que Mozart a recherché l'égalité. C'est-à-dire qu'il voulait être considéré sur un pied d'égalité par les représentants de la noblesse. Pour lui, il avait des qualités artistiques qui faisaient qu'il était comme les autres. Et d'ailleurs, quand il est à Mannheim, il rencontre un noble qui le considère comme tel. Donc, il pense que, puisque une personne le fait, d'autres représentants de la noblesse doivent pouvoir l'accepter. À l'époque, en effet, un musicien, il a rang de domestique, n'oublions pas.
Bien sûr. Lorsqu'on pense à l'incarnation du génie, Mozart est l'un des premiers noms qui nous vient en tête. D'ailleurs, son nom est presque synonyme de génie. De son vivant, comment était-il perçu par ses contemporains ? Parce qu'il a connu un énorme succès dans les années 1780, puis après, quand même, quelques difficultés.
Oui, alors c'est très intéressant. Quand il se fait virer par le maître des cuisines, on dirait le DRH aujourd'hui, de Colloredo, de son patron de Salzbourg, il lui dit « Vous voulez vous installer à Vienne ? Méfiez-vous, les Viennois sont versatiles, vous allez être à la mode quelque temps et ça va passer. » Et c'est ce qui s'est passé. Au début, c'est la coqueluche de tout le monde. Surtout comme claviériste, comme pianiste. C'est vraiment, on vient l'écouter, il improvise de très longues minutes. On lui donne un thème, il va improviser une demi-heure, et c'est parfait à chaque fois. Donc, au piano, ça restera une star. Mais en effet, les opéras, notamment les Noces de Figaro, bon, ça va pas, c'est un compositeur parmi d'autres. Autant au piano, il est au-dessus des autres, autant comme compositeur d'opéra, n'oublions pas qu'à l'époque, alors il y a Salieri, Paisiello, Gluck, qui sont aussi, on manque pas de compositeurs à Vienne.
Mm-hmm. Mozart meurt jeune, je l'ai dit, à l'âge de 35 ans. Ses voyages, ses tournées interminables effectuées dans sa petite enfance, est-ce que tout ça a abîmé sa santé ?
Ah, ça c'est une question, je n'ai pas la réponse. J'espère que non, parce qu'en effet, mourir si jeune... Ce qui est vrai, c'est qu'il tombe malade après le 15 novembre 1791 et il meurt le 5 décembre. Donc, c'est une maladie fulgurante. On ne peut pas dire qu'il ait traîné une maladie tout au long de sa courte vie. Mais même la maladie qui amène la mort, on ignore exactement de quoi il est mort. Donc, c'est un mystère. Est-ce que ces voyages l'ont abîmé ? En tout cas, ces voyages l'ont enrichi, c'est évident.
Mais merci beaucoup Thierry Geoffretin de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Mozart, le compositeur voyageur. Je rappelle que votre livre Mozart en tournée est disponible aux éditions Éric Bonnier. Et parce que c'est là qu'on eut les funérailles de la mère de Mozart, j'en profite chers auditeurs pour vous signaler un événement auquel je ne peux que vous conseiller de vous rendre pour ceux qui sont de passage dans la capitale, Luminiscence. Un spectacle de son et lumière qui vient célébrer les 800 ans de l'église Saint-Eustache à Paris. C'est à découvrir jusqu'au 25 mai prochain en partenariat avec Europe 1.
Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.